France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Vincent Désir à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Nouvelle masterclass au programme de cette émission. La classe de terminale générale du lycée Camille Claudel de Palaiseau est au travail, ainsi que leur professeur de philosophie, Amélie Le Dutivel. Et pour nous accompagner, eh bien, nous avons l'honneur, il faut dire ça comme ça, de compter parmi nous Francis Wolff, professeur émérite à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, auteur d'un certain nombre, pour ne pas dire de nombreux ouvrages, je ne citerai que ceux-ci, « Notre humanité d'Aristote aux neurosciences »,« La vie a-t-elle une valeur ?»,« Dire le monde »,« Il n'y a pas d'amour parfait », tiens donc, « Pourquoi la musique ?» et je terminerai avec « Le temps du monde », pour lequel d'ailleurs nous l'avions reçu ici même. Le temps, justement, une des notions au programme du baccalauréat. L'horloge aura avancé d'une cinquantaine de minutes lorsque l'émission prendra fin. Inutile de vous dire que le temps va nous manquer pour réfléchir à cette question vertigineuse. Début de réponse avec Vladimir Jankélévitch.
Ah bien, le temps, c'est la philosophie. C'est le maître problème, c'est le problème par excellence de la philosophie. Il a tous les caractères du problème philosophique, n'est-ce pas ? Évanouissant. Et je ne trouve rien de plus beau et de meilleur que la phrase de Saint-Augustin à propos du temps, n'est-ce pas ? Quand on ne me demande pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. C'est pour moi une évidence merveilleuse. Mais dès qu'on me demande ce que c'est, alors je m'embrouille, je commence à chuchoter, à barguigner, je ne sais plus où j'en suis. Et donc je ne peux reconnaître son évidence que de loin. Et de près, il me fuit.
C'est l'insaisissable, alors.
Mais l'insaisissable philosophique, c'est une évidence inévidente.
Oui.
Évidente de loin, approximativement, et redevenant évidente quand on a le dos tourné, mais inévidente quand on la regarde de près. Vous savez, c'est comme la parabole d'Animus et d'Anima, n'est-ce pas ? Quand Animus regarde par le trou de la serrure, Anima cesse de chanter. Et quand par hasard il s'éloigne, Animus, alors Anima recommence à chanter. Mais quand on ne la regarde pas, eh bien tel est le temps. Quand vous le regardez dans les yeux, alors le temps, c'est plus rien, ce sont des points, c'est une série, comme dans la musique dodécaphonique, c'est des allumettes que vous rangez les unes à côté des autres, ou des jeux d'enfants. Mais quand vous regardez quelle est son essence, quand vous regardez le temps dans le blanc des yeux, le temps s'enfuit.
Vladimir Jankélévitch au micro de Jacques Chancel. Amélie Le Dutivel, là, il vient d'être question d'Augustin, on peut parler d'Aristote, de Cournot, de Kant, de Durkheim, autant de philosophes dont vous étudiez les textes avec les élèves, et c'est assez coton, je dois dire, parce que le temps, c'est peut-être le sujet le plus difficile à aborder pour un professeur de philo et pour ses élèves.
Oui, tout à fait, c'est une des notions les plus difficiles, à mon sens, du programme. C'est aussi ce qui est à la fois le plus abstrait et en même temps le plus quotidien pour les élèves. Parce que, bon, par rapport au texte qu'on vient d'entendre, effectivement, quand on essaie de le regarder dans les yeux, le temps, on ne peut pas le saisir, mais il n'empêche qu'on le prend quand même sur la tête et qu'il passe malgré tout et qu'on est pris dedans et qu'on n'y peut rien. Donc c'est quelque chose qui, à la fois, est très difficile à penser, mais qui nécessite d'être pensé parce qu'on est pris dedans, quoi qu'il arrive. Et les élèves, à l'approche du bac, à quelques mois du bac, sont aussi pris dans ce temps qui leur arrive dessus, littéralement.
Mais justement, l'expérience, en ce cas, est un piège, en quelque sorte, parce qu'effectivement, il y a le jour, la nuit, les saisons, le temps du travail, le temps des vacances, tout ça. Bon, on se dit, on est dans le temps, bon, mais en même temps, ça n'aide en rien pour le concept du temps. C'est ça qui est difficile.
Oui, absolument. C'est quand on essaie de penser le temps, on va aller vers plusieurs outils. Bon, on en reparlera probablement après. Mm-hmm. On va penser effectivement des choses très sèches, entre guillemets, très scientifiques. La succession, on va penser la simultanéité, la durée, l'antériorité, la postériorité. Mais on ne va pas réussir véritablement à saisir ce que c'est que le temps qui nous affecte, le temps qui nous touche. Et puis on va avoir des difficultés aussi à s'extraire d'un rapport au temps qui est un rapport qui n'est que celui que le nôtre idiosyncrasique, celui du sujet, celui qui, enfin, du sujet à la fois pensant et du sujet psychologique. On va être dans ce rapport individuel au temps, mais on a du mal à penser notre temps collectif, celui qui, dans lequel on est pris, qui est notre réalité partagée, collective. Et puis, la réalité des, voilà, des faits historiques, des faits du passé, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à penser. Et donc, avec les élèves, on a essayé un petit peu de débroussailler tout ça en classe.
Cher Francis Wolff, alors vous savez que vous êtes vraiment désiré dans cette émission, que votre présence nous comble de joie. Dans le temps du monde, c'est donc un livre d'ailleurs, je le disais en commençant cette émission, pour lequel nous vous avions reçu, qui est une sorte d'enquête. Vous vous frayez au fond un chemin entre ce temps réel, ce temps vécu et le concept du temps. Vous vous frayez un chemin au milieu de ça. Horriblement difficile là, comme tâche.
Bah, la tâche est d'autant plus difficile parce que, comme vient de le rappeler Madame Le Dutivel, nous ne sentons jamais directement le temps lui-même. Mais chacun d'entre nous en sent certains de ses effets. Des effets concrets, c'est un concept peut-être le plus abstrait de tous ceux qui sont à notre disposition, mais c'est lui qui a des effets concrets. Quels effets concrets? Et ces effets, n'est-ce pas, qui sont en même temps des caractéristiques du temps. Par exemple, on dit le temps est irréversible. Eh bien, ça, on le sent. On ne sent pas l'irréversibilité elle-même, mais par exemple, on sent, ouf, c'est fini le dentiste. Donc on sent cet effet qui est l'irréversibilité, c'est fini, ou alors, dans ces effets négatifs, c'est la nostalgie, ça ne reviendra plus, nevermore, etc. On sent un autre aussi de ces effets qui est le fait que c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On a des difficultés à mesurer le temps, sans doute on y reviendra, mais on sent que c'est quelque chose de mesurable, puisque de temps en temps, on sent ça. Ah, oh, qu'est-ce que ça dure, est-ce que c'est long, etc. Le fait que c'est trop long, ou ah, c'est déjà fini. Donc là, on sent un autre effet du temps, un effet subjectif, alors qu'on ne sent pas le temps lui-même.
Et les philosophes eux-mêmes, puisque vous les avez étudiés de près, ne sont pas tous, on va affiner au fil de l'émission, mais ne sont pas tous d'accord là-dessus, sur ce qu'est le temps.
Non, c'est le fait de à peu près de la philosophie, c'est qu'il y a différentes manières d'aborder le temps, selon les philosophes et selon les scientifiques, ou en particulier les physiciens, qui se sont emparés de la question du temps depuis le XVIIe siècle et qui, non plus, ne sont pas d'accord entre eux. Donc, mais on peut peut-être arriver, on y reviendra sûrement, on peut arriver quand même à des analyses sur lesquelles on peut se mettre d'accord.
Un consensus ?
Non, un consensus, non, mais des analyses précises et rigoureuses sur ce que n'est pas le temps, et peut-être, sinon en donner une définition, parce que toute définition est impossible, pour des raisons que j'essaie de montrer, parce que c'est un concept primitif, et qu'il y a, on ne peut pas le réduire à d'autres concepts, donc c'est ce qu'on appelle un indéfinissable. Mais on peut peut-être faire des analyses. Madame Le Dutivel a distribué, a étudié des textes avec ses élèves qui sont d'une très grande rigueur et qui montre qu'on peut, par analyse, arriver à des thèses sur lesquelles on peut, en tout cas, se mettre d'accord sur certains éléments constitutifs de la notion de temps.
Alors, autour de nous, autour de cette table, un certain nombre d'élèves, donc de terminale, Arthur, Sarah, Léa, Mathias, et puis il y en aura d'autres qui leur succéderont. Est-ce que pour vous, c'est un sujet difficile, trop ou très conceptuel, très théorique ? Tu permets que je te tutoie, je me sens plus à l'aise en vous tutoyant. Sarah.
Madame Le Dutivel nous avait prévenu que c'était le sujet, le concept le plus difficile. Au début, je me rappelle que je me suis dit, le temps, ça paraît pas si difficile. Mais lorsque Madame Le Dutivel nous a demandé en cours de donner, enfin d'expliquer ce qu'était le temps pour nous, notamment à la suite de l'étude du texte d'Augustin, il me semble, personne n'a su répondre. Donc oui, finalement, pour moi, je pense bien que c'est quelque chose d'assez d'assez difficile à concevoir.
Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, le temps était quelque chose de très subjectif, qu'on ressent, et que là, ce que vous étudiez, c'est une réalité objective du temps ? Mathias, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, je suis assez d'accord. Je trouve que, enfin, quand on va, parfois, on vit tous le même moment. Par exemple, rien que là, on est tous assis autour de cette table.
Ouais.
Bah, peut-être que pour certains, ça va paraître plus long que d'autres,
ouais.
Et on va tous vivre le moment assez différemment. Malgré tout, l'entretien, il va durer une heure, et on sait que on aura tous vécu le même temps de façon objective, mais le ressenti de chacun va être différent par rapport au temps.
Léa ?
Je pense qu'il y a forcément une part de subjectivité dans tout ça, de la manière de vivre les choses, etc. Mais en même temps, on a toujours un rapport dans notre société assez objectif avec ce découpage en jours, en heures, en minutes, que en fait, on est tous habitués à suivre dans notre quotidien. Mais malgré tout, quand on y pense, on a quand même cette subjectivité qui est toujours là dans la manière de vivre le temps.
Francis Wolff, on a tous, tout un chacun a une image, des images du temps. Et est-ce qu'on a raison quand on dit que le temps s'accélère à notre époque ?
Alors je crois qu'on confond deux choses quand on dit le temps s'accélère. On confond l'impression que nous donnent des événements. Et certains sociologues ont pu en effet montrer qu'il y a une accélération, par exemple, du progrès technique. Voilà. Alors donc il y a de plus en plus de création d'objets techniques dans le même temps. Voilà, donc il y a une accélération de certains événements. Mais le temps lui-même, il n'y a pas de sens à dire qu'il s'accélère, puisque qu'est-ce que c'est que l'accélération, ou qu'est-ce que c'est que la vitesse ? La vitesse est un rapport au temps. Donc le temps ne peut pas s'accélérer. On dit plaisamment, le temps va toujours à la même vitesse, à une heure par heure. Mais ça, c'est une boutade, ça n'a évidemment aucun sens. On ne peut mesurer une vitesse que par rapport au temps, donc il n'y a pas de sens à dire que le temps s'accélère. En revanche, pour revenir à la question que vous posiez à l'instant à ces deux bons élèves de terminale, je crois en effet que la philosophie s'efforce d'aller au-delà des impressions subjectives que chacun peut avoir. Le temps nous paraît long, le temps, et nous voulons savoir non pas ce que le temps nous paraît et nous paraît à chacun, mais ce qu'il est. Et pour ce faire, on disait au début, c'est un concept qui est abstrait. C'est même le concept le plus abstrait, au sens où il faut faire abstraction. Abstrait, non pas au sens que c'est une idée, mais au sens que pour pouvoir concevoir, il faut retirer des choses. Par exemple, nous sommes dans une pièce, si nous faisons abstraction de tout le contenu que nous pouvons voir ou toucher de cette pièce, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester une forme qu'on va appeler l'espace. Et si vous faites abstraction de l'espace, qu'est-ce qui vous reste ? Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas retirer, qui est le temps. Parce que le temps, c'est ce qui reste quand vous avez retiré tout le reste, puisque la pensée même qui vous a mené à retirer tout cela, c'était dans le temps. Donc, c'est le dernier degré de l'abstraction.
Et vous-même, et Dieu sait si vous avez réfléchi et écrit sur le temps, vous avez réussi à vous abstraire du temps ?
Ah, je n'ai pas réussi à m'abstraire du temps, parce que pour faire quoi que ce soit, il faut du temps, et par conséquent, nous sommes pris dans le temps, mais ce n'est pas pour ça que nous devons renoncer à l'approcher, mais on va l'approcher par la bande, on ne va pas l'approcher directement, puisqu'on ne peut ni le sentir, ni le définir. Voilà, déjà deux obstacles à contourner.
Vous êtes bien sur France Inter, et c'est l'heure philo que vous écoutez, Samara Racine.
Starting to feel like the Hamptons. Upgraded sofa space, this room feel like a mansion. The creaky doors have triggered nightmares of invasions. And now my biggest fear is more expansive invitations. But
You ain't grateful, then you guilty. It's niggas living filthy. This world is caving in on us, whichever way you tilt it. This shit collapsing left or right, whichever way you building. And Jane taught me raging hate, so it's a sneaky feeling. Be careful, pretty packaging and acting badly. When violence more contagious than a neighborhood that's happy. Remind myself, relax my face after parking, try text me. Cause being tense more taxing than the greedy niggas asking. That greedy nigga passing might make a holiday. Swear pots and pans will cause a ruckus like the silence may. Well, sayings don't hold weight when it's the stoning age. And speaking up can't wait until your judgment day. But still we straight, cause what will they say? My biggest fear is going out before nobody gon' know of me. Later waste my contribution for existence of poetry. Live too much, the only thing left to do is dying is boringly. My biggest fear is loving somebody who is extorting me. Watch the cities burn around the world and ain't saying anything. Reflection burning to my eyes of silent enabling. Sitting in the water, watching temperatures cross the seas. Let hate win over love, cause I ain't hug up on the trees. My biggest fear is hearts can be influenced through a music piece. The only way to change is near death experience. Experience globally, meteor come forth before my anti-ing socially. While party hating on me instead of whole heart supporting me. My biggest fear is being on the wrong side of history. And where we all went wrong is just oblivious mystery. My biggest fear ain't they biggest fear, it sadly shows. Let meteor come take us, leave us dying to know. What would they say?
Amélie Le Dutivel, je rappelle que donc vous êtes la professeure de philosophie de cette classe de terminale du lycée Camille Claudel à Palaiseau. Le temps, c'est un peu une valse à trois temps, c'est-à-dire qu'au fond, il y a le passé, il y a le présent et le futur. Comment est-ce qu'on explique ça et qu'est-ce qui existe le plus fort, en fait? Lequel des trois?
Alors, je ne sais pas lequel existe le plus fort. En tout cas, ce qu'on peut, en lisant Saint-Augustin, et c'est comme ça que j'ai commencé le cours avec les élèves,
ouais.
On peut effectivement noter avec Augustin que quand on essaie de savoir ce qu'est le passé, le passé n'est rien parce qu'il n'est plus, et le futur n'est pas puisqu'il n'est pas encore. Mais en même temps... C'est le cas de le dire. En même temps, on peut quand même, et j'essaie d'inciter les élèves à s'arrêter quand même sur les textes, pas seulement à les comprendre, mais à aussi les interroger. On peut s'interroger sur cette inexistence du passé. Le passé n'est pas parce qu'il n'est plus, mais ce qui est passé, la vie des gens qui sont plus là, dont il n'y a plus de traces, elle est quelque chose aussi de réel. Donc déjà, rien que là, il y a déjà un problème sur ce texte. Le passé, enfin, un problème pour la pensée. Le passé n'est pas parce qu'il n'est plus, ça nous interroge. Alors, en tout cas, sur ce texte, on a collectivement réfléchi au fait qu'effectivement le présent est peut-être ce qui semble avoir le plus de réalité. Alors est-ce que c'est le présent? C'est simplement mon rapport au monde. Je perçois de manière immédiate des choses. Et puis alors qu'est-ce que c'est que le passé? Le passé c'est les images que là, moi qui perçois, je convoque, ou les mots que moi je convoque, que je me représente, là, maintenant, tout de suite. Mais ce sont des images d'archives, entre guillemets, des images que j'ai emmagasinées ou des mots que j'ai emmagasinés. Et puis le futur, qu'est-ce que c'est?
Il n'existe pas, le futur.
Le futur n'existe pas, puisqu'il n'a pas lieu. Le futur n'existe pas et cependant je l'anticipe. Alors est-ce que je peux le deviner? Est-ce que je peux avoir la préscience de ce qui va se passer? Probablement non. En revanche, je peux là, maintenant, moi, tout de suite, percevoir des choses dans les phénomènes, des causes qui, en général, appellent tel effet, tel ou tel effet, les causes des phénomènes à venir, ou des signes. Et des signes et les causes, c'est pas... J'essaie aussi de montrer ça ou de faire repérer ça aux élèves. Les causes et les signes qu'on perçoit actuellement, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Une cause a un effet nécessaire, toujours le même, c'est les lois de la physique. Et un signe, c'est tous les petits éléments qu'on va saisir et qui vont, par induction, nous emmener à envisager qu'il est fort probable que se passe bientôt tel ou tel événement. En tout cas, ce que je vis, c'est ma perception immédiate et la représentation des images que j'ai emmagasinées et la perception de signes ou de causes de ce qui va soit certainement, soit probablement advenir.
Mais alors, ce qui est complètement dingue, et là je m'adresse à vous les élèves, c'est que là on est en train de vivre donc un moment, vous en garderez j'espère un bon souvenir, en tout cas un souvenir, et puis vous êtes obligé de vous projeter dans l'avenir, puisque vous allez passer le baccalauréat, que vous avez probablement des envies d'études après, vous savez, vous êtes en train d'envisager ce que vous ferez dans pas très longtemps. Comment est-ce que vous considérez ces trois temps de la vie, passé, présent, futur? Léa?
Bah, c'est sûr qu'on est obligé d'être confronté à ces trois modes un petit peu temporels, parce que notre société est faite comme ça. Mais je dirais que on est confronté constamment au présent, mais en même temps, le présent, il est pas vraiment saisissable. Il passe assez vite, alors même qu'on n'a pas forcément le temps de réaliser ce qui se passe. Le passé, c'est quand même assez important parce que nos souvenirs, c'est aussi une part de notre identité, quelque part. Donc on a besoin aussi de cette notion de passé. Et le futur, on est obligé de prévoir des plans pour notre avenir, etc. Et c'est obligatoire dans notre société parce que si on n'anticipe pas le futur, le présent, il passe vite et le futur nous vient dessus. Et si on n'a pas anticipé ça, le futur, il est fait de rien. Et donc, du coup, après, c'est notre présent qui en est impacté, notre passé. Et donc, on a besoin de cette anticipation aussi dans notre vie quotidienne.
Mathias ?
Oui, enfin, là, on se rend compte avec notre entrée prochaine dans les études supérieures qu'on a besoin d'anticiper toutes les différentes possibilités de futur, même si à la fin, on sait bien qu'il n'y en aura qu'une seule qui deviendra présent puis qui deviendra passé. On a besoin d'anticiper toutes les possibilités pour notre futur, même si au final, on ne sait jamais vraiment ce qui va advenir.
Bien sûr. Sarah ?
C'est vrai que le futur et le passé peuvent apparaître comme ayant peu d'essence, mais en fait, surtout là, cette période de notre vie, on se rend compte à quel point le futur, c'est quelque chose d'important. Voilà, de s'imaginer plus tard, on rentre actuellement nouveau sur Parcoursup, donc, et également le passé, c'est quelque chose aussi également très important, car comme l'a dit Léa, c'est ce qui constitue notre être.
Arthur ?
Le passé et le futur finalement vont ensemble, parce qu'on utilise notre expérience passée pour finalement nous projeter, on se projette dans nos études, et on imagine quelque chose qui va venir. Cette vision du futur peut faire peur, on l'appréhende de différentes manières en fait.
Mm-hmm. Francis Wolff, beaucoup de choses ont été dites là. Je voudrais revenir peut-être, vous aurez envie de dire d'autres choses, mais sur ce que disait Léa tout à l'heure, sur le futur qui est une anticipation mais nécessaire, et sur la difficulté aussi, ce qu'elle a dit, de saisir l'instant. C'est vrai, quelquefois on vit des moments qu'on revit dans son esprit après, donc ça fait déjà partie du passé, et on les vit presque plus fort qu'on ne l'a vécu sur le moment.
Mais les diverses interventions ont mis le doigt sur le même paradoxe. C'est-à-dire que seul, semble-t-il, le présent existe, puisque le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Et pourtant, c'est un paradoxe que relève Pascal dans une fameuse pensée, nous ne nous tenons jamais au présent. Et comme il vient d'être dit, nous avons besoin en permanence, pour simplement agir, nous appuyer sur le passé, sur notre expérience, afin de pouvoir prévoir ce que nous allons faire. L'action est tournée vers ce qui n'existe pas encore, en s'appuyant sur ce qui a été et n'est plus, si bien que nous ne sommes jamais dans le seul temps qui existe. Mais j'aurais peut-être essayé de rajouter quelque chose. Les philosophes, dans l'histoire de la philosophie, se sont divisés, disons, en gros, en deux. Bon, il y a beaucoup de façons à propos du temps. Il y a ceux qui utilisent la distinction présent-passé-futur, comme saint Augustin, qui l'a magnifiquement analysé dans le livre 11 des Confessions, et dans des analyses qui sont, disons, indépassables, même si elles sont reprises par un certain nombre de courants phénoménologiques contemporains. Mais il y a des philosophes qui n'ont pas besoin de cette distinction entre passé, présent et futur. Parce que on peut faire remarquer d'abord que le présent, eh bien, ce qui est présent pour nous n'était pas présent, qui était appelé présent, pour nous n'était pas appelé présent il y a un siècle, ne sera pas appelé présent dans un siècle, de telle sorte que pour caractériser le temps lui-même, on n'a peut-être pas besoin de ces références qui dépendent du point de vue où l'on est. Du point de vue, c'est pas du point de vue où l'on est, c'est du point de vue où on se trouve dans l'histoire du temps. Il m'arrive parfois de dire que les philosophes, implicitement, ceux qui ont recouru à l'idée que pour comprendre le temps, il faut utiliser présent, passé, futur, comme Pascal, comme Husserl, etc., je dis que c'est comme s'ils étaient dans le fleuve du temps. Si vous êtes dans le fleuve du temps, je ne parle pas de l'image du fleuve qu'on met à toutes les sauces, dans le fleuve du temps, et là, vous êtes présentement, et vous regardez l'amont, vous voyez devant vous le futur arriver, et quand l'eau arrive en vous, c'est le présent, et puis derrière vous, c'est le passé. Vous êtes dans le fleuve du temps. Mais vous avez une autre manière de représenter le temps, qui n'est pas du tout sous cette forme d'un fleuve dans lequel nous sommes plongés. Vous faites un cours d'histoire. Vous faites un cours d'histoire, alors vous allez représenter les différentes rois de France. Alors vous allez mettre une flèche au tableau. Et vous allez dire, voilà, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et vous allez dire, voilà, Louis XVI est postérieur à Louis XV. Et puis Louis XIV, qui est mort en 1715, c'est antérieur. Et vous avez simplement une relation d'antériorité-postérité. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le présent. Vous pourriez faire la même flèche et la même représentation il y a un siècle, ou dans trois siècles, ce sera toujours la même relation. Donc vous avez des philosophes qui n'ont pas besoin présent, passé, futur, et qui recourent simplement à la relation antériorité-postériorité. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que fait Aristote dans les textes qui ont été étudiés en classe.
Si on pense à Galilée, à Newton, à Einstein, évidemment, avec la théorie de la relativité, on se dit qu'on ne peut pas appréhender le temps de la même façon. Est-ce que la science, à un moment donné, Francis Wolff, n'a pas volé à la philosophie ses prérogatives pour penser le temps ?
Oui, c'est un petit peu mon point de départ. Mmh. C'est-à-dire que longtemps, comme beaucoup d'autres objets, la philosophie avait le monopole, si je puis dire, de s'interroger sur le temps et de poser aussi bien des questions que nous appellerions aujourd'hui métaphysiques que des questions qui relèvent aujourd'hui de la physique. C'est évidemment depuis Galilée, depuis le XVIIe siècle, que le temps a fait son éruption, si je puis dire, dans la physique, en devenant une constante de la première loi de la nature, n'est-ce pas, qui était la loi de la chute des corps. Et depuis, en effet, la physique a pris le monopole sur ce concept. Enfin, il faudrait ajouter les théories physiques, parce que ce que dit la théorie de la relativité restreinte n'est pas non plus ce que dit la mécanique quantique sur le temps, puisque le temps mécanique quantique a besoin encore d'une sorte de temps newtonien extérieur au phénomène. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce monopole quasi exclusif. Ce que j'ai voulu avec ce livre, comme d'autres, c'est de dire qu'il n'y a pas nécessité que la philosophie abdique face à la physique, ou qu'elle se réfugie d'une certaine manière dans la subjectivité, dans la conscience du temps, dans ce qu'on appelle la temporalité, dans notre rapport au temps. Nous avons encore, nous devons reprendre, nous philosophes, le droit de parler du temps lui-même. Et c'est un peu la tentative que j'ai faite. Il n'y a aucune fatalité à ce que cet objet ne soit pas aussi un objet philosophique pour aujourd'hui.
Amélie Dutivel, je sais que vous avez lu avec attention et que vous avez aimé, c'est peu de le dire, le Temps du Monde, cet essai de Francis Wolff. Est-ce qu'il faut, en tant que professeur de philosophie, s'ouvrir justement à d'autres disciplines, en fait ?
Alors, est-ce qu'il faut le faire? Ça me semble évident. Puis de toute manière, on n'a pas le choix. Enfin, la philosophie, c'est quand même un regard sur l'ensemble de la connaissance humaine, et on ne va pas fermer les yeux sur l'avancée non seulement de la physique, mais également des neurosciences. Enfin, il semble évident que on ne peut pas, par exemple, faire l'impasse sur. Enfin, en ce qui me concerne, ça me passionne sur la lecture, par exemple, d'Oliver Sacks. Sur les pathologies neuro qui, en fait, altèrent notamment notre sens du temps. Hein. Si vous lisez L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, il y a des tas d'exemples. En plus, c'est très ludique. Bon, moi, je sais qu'en classe, j'en parle souvent, beaucoup. Alors, pas encore cette année, mais ça viendra. Parce que, voilà, les neurosciences nous donnent des informations aussi sur notre rapport au temps, sur ce que c'est que le temps. Mais je rejoins tout à fait Francis Wolff. Ça n'empêche pas que on a malgré tout encore un champ de travail. Encore une fois, enfin, moi je pense que ce qui m'importe dans la question du temps, ou en tout cas ce qui me fascine ou ce qui suscite mon étonnement, ce qui est quand même le fondement de la démarche philosophique, c'est la question du réel. Voilà, c'est ce qui n'est plus, est-ce que c'est réel ? Ce qui n'est pas encore, est-ce que c'est réel ? Et ça, ni les neurosciences, ni la physique qui en fait fixe des rapports, quel que soit d'ailleurs l'outil physique, mais enfin, c'est toujours des questions de rapport, ne me permet de penser ce que c'est que le réel, et un réel qui n'est plus là, mais qui malgré tout a été réel. Ça, c'est voilà, quelque chose qui me semble donner encore matière à penser aux philosophes.
Mais est-ce que la difficulté ne vient pas précisément du fait qu'on est peut-être assez vulnérable, parce que tout est éphémère et qu'on cherche au fond, désespérément, une réalité intemporelle, on voudrait un temps de toute éternité. Je ne sais pas ce qu'en pensent les élèves autour de la table. Si, évidemment, vous avez envie de dire quelque chose à ce sujet, vous ne vous gênez pas. Francis Wolff.
Je pense que nous avons besoin nécessairement de penser des choses qui sont hors du temps. 2 plus 2 égale 4, c'est hors du temps. C'est une vérité, peut-être qu'elle n'est pas éternelle, en tout cas, elle est intemporelle ou atemporelle. Et dès lors que nous disons quelque chose que nous pensons vrai, nous pensons que c'est pas vrai maintenant et ici, sauf si je parle d'ici et maintenant, il est 8 heures du soir, mais si je parle de quelque chose, je prétends que c'est vrai. Alors, par ailleurs, je pense que le rôle de la philosophie, par rapport à la science, c'est aussi de répondre à des questions comme vient de poser
Amélie. Appelez-la Amélie, vous pouvez vous permettre.
Le passé existe-t-il ? C'est une question qui, moi, m'a beaucoup intéressée, auquel j'ai consacré un chapitre, en effet. L'histoire se distingue de la fiction précisément parce qu'elle cherche à établir ce qui a été. Et ce qui a été présent et il l'a été réellement. Si nous disons simplement, nous arrêtons la phrase en disant « le passé n'est plus », c'est-à-dire si nous disons que le passé n'est pas plus que le fruit de mon imagination, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les révisionnismes historiques et à tous les négationnismes, n'est-ce pas, qui disent que, eh bien, après tout, ça n'est plus, ou nous en avons à peu près perdu le souvenir, donc ça n'a pas existé. Et donc, il faut trouver, pour le passé, un mode d'existence qui soit propre au passé, qui est l'objet de toutes les sciences historiques, la paléoanthropologie, l'histoire, etc., et qui ne soit pas du même type que le présent. C'est ça. C'est une grosse difficulté. Je crois que cette difficulté, la langue nous aide à la résoudre parce que nous avons dans certaines des langues contemporaines, en particulier la langue française, un très beau temps verbal qui nous permet de penser. Ça a été. Quand je dis ça a été, j'ai à la fois le verbe être, c'est-à-dire que c'est quelque chose de réel, et le fait que ça a été au passé. Ça n'est pas par la même chose que se dire « ça n'est plus ». Mais ça a été, c'est comme si c'était quelque chose que l'événement avait et avait eu qui le rend définitivement ayant existé, si je puis dire.
Mais on a quand même ce désir de suspendre, autant suspendre ton vol, hein, de Lamartine.
C'est... Ben, on a bien du mal.
Hein. On a bien du mal, mais que la vie est belle. C'est Karen Anne qui le chante. Vous êtes bien donc sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez, une masterclass avec une classe de terminale du lycée Camille Claudel de Palaiseau, en compagnie également de leur professeur de philosophie Amélie Le Dutivel et Francis Wolff, le philosophe que nous connaissons tous. Alors là, on s'attaque à un gros morceau, Emmanuel Kant, si je peux me permettre, Critique de la raison pure. C'est un texte qui date de 1781 et j'en profite pour remercier notre fidèle lecteur Franck Olivard.
Le temps n'est pas un concept empirique qui dérive d'une expérience quelconque. En effet, si la simultanéité ou succession ne tomberait pas elle-même sous la perception, si la réception du temps ne lui servait a priori de fondement, ce n'est que sous cette supposition que l'on peut se représenter qu'une chose existe en même temps qu'une autre, simultanément ou dans les temps différents, successivement. Le temps est une représentation nécessaire qui sert de fondement à toutes les intuitions. On ne saurait exclure le temps lui-même par rapport aux phénomènes en général, quoi qu'on puisse fort bien enlever les phénomènes du temps. Le temps est donc donné a priori. En lui seul est possible toute réalité des phénomènes. Ceux-ci peuvent bien disparaître tous ensemble, mais le temps lui-même, comme condition générale de leur possibilité, ne peut être supprimée.
Amélie Le Dutivel, c'est un texte que vous étudiez, ça, en classe, avec vos élèves.
Oui, tout à fait. C'est un texte qu'on étudie après s'être demandé si le temps était une donnée de l'expérience. Est-ce qu'on prend conscience du temps par l'expérience ? Et le texte de Kant, celui-là ou d'autres d'ailleurs, nous permettent d'aborder l'idée que le temps ne provient pas de l'expérience, mais est ce qui rend toute expérience humaine possible, c'est-à-dire une condition de l'expérience. Et quand on travaille ce texte, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de l'orage, tout simplement. Hein. Si vous assistez à un orage, que la foudre tombe à 3 km, vous verrez d'abord l'éclair, puis vous entendrez le tonnerre. Est-ce que c'est cette expérience de l'orage qui vous donne le sens du temps, c'est-à-dire qui vous donne la notion de la successivité de ces phénomènes ? Ou est-ce qu'au contraire, et c'est ça tout l'immense apport de Kant, est-ce que c'est parce que vous avez déjà dans l'esprit, vous, et tous les autres sujets pensants, hein, est-ce que vous avez déjà dans l'esprit ce sens, ces éléments en fait fondateurs de toute expérience, la simultanéité ou la succession des phénomènes. C'est donc ce que Kant met en évidence, c'est que ce sens du temps est en fait constitutif de notre esprit, de nos esprits pensants, comme l'est aussi l'espace, mais finalement presque dans une moindre mesure, en fait. Mais je crois que M. Wolff en a parlé tout à l'heure. Le temps est nécessaire pour avoir le sens de l'espace. Si vous voulez penser une figure en trois dimensions, un cube, une pyramide, vous avez besoin d'avoir le sens de la simultanéité, car il vous faut envisager dans la représentation les trois ou quatre faces, enfin, les trois faces de la pyramide et les multiples faces du cube en même temps. Et donc, pour pouvoir vous représenter quelque chose, il faut avoir ce sens du temps, et pour pouvoir faire une expérience et dire voilà, ça c'est venu en premier, ça c'est venu en second, eh bien il faut déjà avoir ce sens du temps. Et pour revenir à Oliver Sacks dont je parlais tout à l'heure, les cas pathologiques qu'il décrit montrent que des gens confrontés en fait à des sensations qui auraient comme ça ce sens du temps altéré, sont d'ailleurs complètement incapables de mettre leur expérience dans l'ordre, de donner un sens à l'expérience qu'ils vivent, et à dire quand a lieu quel phénomène dans leur vie quotidienne.
D'autres élèves de la classe donc de terminale du lycée Camille Claudel de Palaiseau se sont installés. Alors, Ninon, qu'est-ce que tu penses de ce texte de Kant ? Comment l'as-tu reçu ?
Moi, j'ai trouvé ce texte très compliqué et je trouvais que c'était... Enfin, j'ai beaucoup de mal avec cette notion, alors que la prof, en début de... Quand on a commencé à en parler du temps, elle a commencé par dire que c'était une notion qui parlait souvent aux élèves qui aimaient les sciences, etc. Et moi qui aime les sciences, bah, j'ai un peu réfléchi parce que j'ai vraiment rien compris. Et plus on avançait dans la séquence, plus j'étais perdue. Donc du coup, ce texte... J'ai vraiment eu du mal et j'ai vraiment pas compris, en fait.
Est-ce que est-ce que pour vous, le temps est donné comme une intuition ?
Kant a, si vous permettez l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, il veut montrer que le temps n'est pas quelque chose qui existe sans nous, mais d'un autre côté, il veut montrer que ça n'est pas quand même quelque chose que nous pouvons intuitionner directement. Alors il va en faire troisième catégorie, ça va être la condition pour que nous puissions intuitionner, c'est-à-dire percevoir quoi que ce soit. Et pour ce faire, il va montrer que d'un côté, c'est un peu l'expérience de pensée que je proposais tout à fait au début, qui était un peu kantienne, c'est-à-dire on supprime tout ce que nous pouvons voir, il reste l'espace, qui pour Kant est une forme, mais une forme vide, mais qui est prête à recevoir tout ce que nous pouvons percevoir. Et si on retire tout ce qui est spatial, il reste encore le temps, qui est une autre forme encore plus vide, mais qui est prête à recevoir tout ce que nous pouvons penser successivement ou simultanément. Par conséquent, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas le percevoir, mais c'est ce sans quoi nous ne pourrions pas percevoir le reste. Donc c'est quelque chose qui est en nous, mais ce qui n'est pas en nous comme une illusion, c'est quelque chose qui nous permet de voir, de comprendre, d'intuitionner tout ce qui est extérieur. C'est une condition pour qu'il y ait une extériorité, qu'elle soit spatiale ou qu'elle soit temporelle.
Mais est-ce que, par exemple, je pense à ça par rapport à Kant, est-ce que la musique peut nous éclairer sur des concepts de permanence du temps, vous qui avez aussi abordé ce sujet ?
Oui, je pense, et d'ailleurs, je parle beaucoup du temps dans le livre sur la musique, et je parle un peu de musique dans le livre sur le temps. C'est d'ailleurs une constante chez un certain nombre de philosophes, en particulier ceux qui ont une conception, disons, plus subjectiviste, si on peut dire comme ça, du temps. La musique revient souvent chez Saint-Augustin, chez Husserl, chez Bergson, c'est en permanence. Pourquoi ? Tout simplement, l'idée, c'est que nous avons l'intuition que le présent n'est pas simplement ce qui est actuellement au bord de devenir passé ou au bord de ne plus être futur, c'est-à-dire cette espèce de temps zéro qui serait le passé, puisque quand, pour reprendre un exemple célèbre de Bergson ou de Husserl, quand nous entendons une mélodie, nous entendons une seule mélodie, alors que il n'y a pas deux notes qui soient simultanées, dont un petit air qu'on sifflote, etc. Donc nous percevons la continuité de la mélodie, alors même qu'il n'y a qu'une succession, et si nous réduisions le temps à ces trois modes de façon très dogmatique, c'est-à-dire le passé n'est plus, ben si la précédente ou les précédentes notes n'étaient plus, eh bien nous n'aurions pas le sentiment d'une mélodie unique, c'est-à-dire de son unité profonde. Nous ne pourrions. Ce n'est pas simplement une question de mémoire, c'est une question de structuration de la mélodie elle-même.
Est-ce que le temps pourrait, ce sera ma dernière question, parce que je vois que l'heure file, nous faire devenir autres, différents, Amélie Le Dutivel ?
On considère souvent le temps comme quelque chose de destructeur, quelque chose qui corrompt, quelque chose qui, ou même qui altère, donc qui nous fait devenir autres. Mais on peut aussi considérer que le temps, c'est ce qui va permettre l'accomplissement, la réalisation de soi. Alors, soit d'un potentiel, de quelque chose qui serait en germe, on pourrait dire en puissance, mais on peut aussi considérer qu'il n'y a rien du tout en germe, qu'il n'y a rien en puissance et que justement, le temps fait que acte après acte, irréversible après irréversible, on construit ce que l'on est, ce que l'on sera au moment où ce sera la fin, où on éteindra la lumière sur l'existence de chacun. Mais peut-être que le temps, c'est justement le fait de poser, enfin c'est, en tout cas ça implique le fait de poser des actes les uns après les autres, qui ne sont sur lesquels on peut pas revenir, qui sont irréversibles, et qui d'ailleurs, même si nous étions immortels, seraient tout aussi irréversibles. Même si vous êtes immortel, vous allez poser un acte, puis un deuxième acte. Vous aurez peut-être l'occasion de refaire plus tard un choix que vous aviez éludé quelque temps auparavant, mais quand bien même, ce choix ne sera pas le même puisqu'il n'aura pas lieu en même temps. Et donc, petit à petit, on se construit. On construit ce qu'on est. Alors, est-ce que le temps fait qu'on devient autre ou est-ce qu'il fait qu'on devient ce qu'on sera au moment où on disparaît ? Est-ce que le temps nous accomplit ? Voilà, comme d'habitude, je pose une question en réponse à la question.
Et Ninon, qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Moi, je pense que le temps, c'est... Enfin, avec le temps, on peut aussi voir notre évolution, parce qu'on avance et on devient chaque jour une personne différente, parce qu'on est sans cesse en progrès, on apprend tout le temps. Bah, une des marques de cette évolution, c'est par exemple la puberté pour les adolescents. On devient forcément une nouvelle personne physiquement, mais même intérieurement, on se pose de nouvelles questions et on apprend. Et c'est ce qui fait qu'on se construit en tant que personne.
Et c'est ce qui fait le sel de la vie jusqu'au bout, Francis Wolff ?
Je dirais que pour pouvoir changer, il faut rester le même. Car seules les choses qui demeurent ce qu'elles sont peuvent dire on peut dire d'elle qu'elle change. Si vous, quand je suis arrivé, vous me dites « Ah, qu'est-ce que vous avez changé ?» Ben, c'est quand même que vous m'avez reconnu et que je suis demeuré quand même ce que j'étais.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que nous apprend Kant aussi dans une mais ce qu'il appelle une analogie de l'expérience. Seul ce qui est permanent peut changer.
Francis Wolff, je vous remercie. Le temps du monde, c'est chez Fayard. Il n'y a pas d'amour parfait. Ça, je conseille à tous les élèves de la classe de le lire. Pourquoi la musique ? Enfin, il y en a tant d'autres. Merci à vous, Amélie Le Dutivel. Merci également. Le professeur donc de cette classe,
c'est
du
moi
lycée
qui vous remercie.
Camille Claudel de Palaiseau. Si vous avez envie d'applaudir, parce qu'il y en a plein derrière moi, mais que je ne vois pas.
Les élèves et leur professeur.
Alors, merci. C'était la fin de l'émission.